Chapitre 16. C'était le jour où les patrons devaient recevoir les délégués des ouvriers en grève. La grande salle d'un hôtel avait été choisie pour le lieu de réunion, et vers 11 h, les fabricants intéressés dans l'affaire ne manquèrent pas de s'y rendre. Malgré les préoccupations qui remplissaient leur esprit, ils s'entretinrent d'abord de la pluie et du beau temps, et ce n'est qu'après avoir épuisé la matière qu'ils abordèrent le grave sujet pour lequel ils étaient rassemblés, et discutèrent de nouveau la question qu'il s'agissait de résoudre. Quelques-uns, nous l'avons dit, voulaient qu'on fît un léger sacrifice, qu'on donnât un bonbon à l'enfant irrité pour obtenir la paix. Mais la plupart s'élevaient avec force contre un précédent aussi fâcheux, et se montraient d'autant plus hostiles aux ouvriers qu'ils étaient encore sous l'influence du jugement qu'on venait de rendre à New Bailey contre l'un de ces derniers, coupable de coups et blessures graves sur la personne d'un malheureux tisseur du Nord qui avait accepté la réduction des salaires. Il s'indignait avec raison des affreux traitements qu'avait subis la victime, et ne s'apercevait pas que leur indignation, comme cela n'arrive que trop souvent, prenait tous les caractères de la vengeance. Plutôt que de céder à des hommes assez cruels pour recourir à de tels moyens, il se sentait disposé, au contraire, à garder tous les bénéfices qui pouvaient naître un jour de la livraison de leurs commandes, afin d'augmenter les souffrances de ces gens sans pitié. Ils oubliaient que la grève n'était que la conséquence de la misère, et que dans la pensée des ouvriers, tous leurs maux découlaient d'une injustice. Quelque insensé que ce raisonnement pût être, c'était celui que faisaient ces malheureux, et cette injustice à laquelle ils croyaient fermement causait toute leur colère. Ce qu'il fallait, c'était les éclairer. Mais au lieu de traiter les ouvriers en frères, de s'adresser à eux comme à des êtres doués de raison et de leur exposer franchement la situation qui forçait les patrons d'agir ainsi, dans l'intérêt même du travailleur, si étroitement lié à la prospérité du commerce, on choisissait la violence. Et pourtant, c'est une vérité bien reconnue que la force est le plus mauvais des moyens pour repousser la force. Tandis que vous vous félicitez du succès qu'elle vous donne, vous ne voyez pas que l'ennemi revient vous assaillir avec 7 démons, bien plus forts que le premier. » Et, d'un groupe à l'autre, on entendait circuler ces paroles. « Pauvre diable, il meurt de faim, c'est à la lettre. Mistress Alders fait une soupe toutes les semaines avec 2 têtes de vache, et l'on vient de plusieurs milles, sans disputer une cuillerée. Or, si cela dure, il faudra pourtant qu'on y avise et qu'on fasse quelque chose. Mais nous devons rester libres et n'agir que suivant notre propre volonté. »
On pourrait les augmenter d'un shilling. Ce ne serait pas une affaire, et ils s'en contenteraient en pensant qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient.
C'est précisément pour cela que je m'y oppose. Il ne faut pas qu'ils croient remporter une victoire. Ce serait justifier leur conduite et leur donner raison. Cette grève nous porte, en vérité, plus de préjudice qu'à eux. Je ne vois pas comment leurs intérêts et les nôtres pourraient être séparés.
Les maudits coquins, ils ont jeté du vitriol aux chevilles du malheureux. Vous comprenez que, ne pouvant plus se soutenir, il s'est trouvé à la merci des misérables qu'il frappait à la tête, et qu'ils l'ont mis dans un tel état qu'on désespère de lui. Rien que pour cette atrocité, je suis résolu à tout leur refuser, dussé-je être ruiné par leur obstination. Qui donc voudrait céder un liard à ces brutes, qui tiennent plus de la bête féroce que de l'homme?
De qui dépendait-il qu'il en fût autrement?
Carlson est allé trouver Duncamp pour lui apprendre ce nouveau trait de leur abominable conduite. Ce dernier hésitait encore à se prononcer contre eux, mais j'espère que cela aura suffi à le mettre de notre côté. La porte s'ouvrit, et le garçon d'hôtel vint demander de la part des délégués, arrivés depuis un instant, s'il plaisait aux gentlemen de les recevoir. L'ordre de les faire monter ayant été donné, chacun des patrons alla prendre sa place autour de la table et attendit l'entrée des ouvriers, dans l'attitude qu'avaient les sénateurs romains lors de l'irruption de Brennus dans l'auguste assemblée. Un bruit de pieds en sabots retentit dans l'escalier, et quelques minutes après, des hommes, aux regards sérieux et profonds, défilèrent dans la pièce. Ils étaient de chétive stature, et leurs vêtements de futaine flottaient sur leurs corps décharnés. Les ouvriers, en les choisissant, s'étaient plus préoccupés de leur intelligence que de l'état de leur garde-robe. Il y avait longtemps que pas un d'eux n'avait pu songer à renouveler des habits qui tombaient en lambeaux, et quelques-uns des gentlemen se sentirent blessés qu'on eût envoyé devant leur seigneurie un détachement de pareils gueux, dont les haillons couvraient à peine les membres. À la requête du président, le chef des délégués fit, d'une voix criarde et monotone, la lecture des griefs, des demandes et des conditions, à vrai dire peu modérées, que les ouvriers avaient chargé leurs députés de soumettre aux gentlemen. Quand il eut fini, on l'invita, ainsi que ses camarades, à passer dans une chambre voisine pour laisser les patrons délibérer entre eux et s'entendre sur la réponse qu'il y avait à lui faire. La discussion recommença donc plus animée que jamais, chacun soutenant son opinion avec d'autant plus d'ardeur que l'on s'y trouvait enfin au moment décisif. Ce fut le parti de la conciliation qui l'emporta d'une voix, mais l'altière minorité qui renfermait les forces vives de l'Assemblée s'éleva hautement contre toute concession qu'elle taxait de faiblesse coupable et continua ses protestations énergiques même après que les délégués furent rentrés dans la salle sans s'inquiéter de l'effet que ces paroles pouvaient conduire sur les malheureux qui les écoutaient. Les patrons, disait la réponse à l'adresse des ouvriers, ne pouvaient accepter les conditions qui leur étaient posées, mais consentaient à donner aux travailleurs un shilling par semaine en sus du prix qu'ils leur avaient offert. Les députés se retirèrent de nouveau pour discuter à leur tour sur la proposition qui venait de leur être faite, et rentrant presque aussitôt, déclarèrent que non seulement ils refusaient cette nouvelle offre, mais encore qu'ils maintenaient leur demande dans toute leur étendue. À peine ces paroles étaient-elles prononcées que le jeune Carson, qui avait profité de l'absence de délégués pour rallier le parti de la résistance dont il était le chef et l'orateur, s'adressant au président de la députation, lui dit que non seulement l'Assemblée retirerait la proposition qu'elle venait de faire, mais encore qu'elle déclarait toute communication rompue entre les patrons de l'Union des métiers, que cette rupture ne concernait pas seulement l'affaire pendante, mais qu'à l'avenir, nul ouvrier n'aurait d'ouvrage s'il n'avait auparavant certifié, par écrit, portant sa signature, qu'il n'appartenait à aucune association, et s'il ne s'engageait, sous la foi du serment, à ne jamais assister ou souscrire aux réunions qui auraient pour but d'examiner les droits des patrons. Qu'en retour, ceux-ci prenaient l'engagement de protéger les ouvriers qui accepteraient ces conditions et consentiraient à recevoir le salaire dont le taux avait causé la grève. Et non content de cette motion impérieuse, qui, en face de ceux qui l'écoutaient, pouvait sembler provocatrice, Henry ne craignit pas de qualifier la conduite des ouvriers en des termes dont la violence rendit plus livide la pâleur des délégués, plus ardent le feu sombre qui brûlait dans leurs regards. Mise aux voix, cette motion, par un de ces retours assez communs dans les assemblées délibératives, fut adoptée, non pas à l'unanimité, mais à une majorité plus forte que celle qu'avait obtenue le parti conciliateur. Rappelés pour entendre cette nouvelle décision, les députés l'écoutèrent en silence et partirent sans répondre, sans même saluer les gentlemen. Mais ce que ne dirent pas les journaux de Manchester, c'est qu'au moment où, pour la première fois, les délégués avaient paru dans la salle, Henry Carson avait, en quelques traits, fait de cette légion d'affamés une caricature expressive, au-dessous de laquelle on pouvait lire quelques-unes des paroles bien connues que prononce le gras chevalier dans la tragédie d'Henri V. Cette charge, malheureusement trop parfaite, après avoir circulé autour de la table, était revenue à son point de départ, et l'auteur, l'ayant reprise et chiffonnée, l'avait jetée dans la cheminée d'où elle avait roulé sans que le feu l'eût touché. L'un des délégués avait remarqué cet incident, et curieux de savoir ce que pouvait contenir de si drôle le papier d'Henry Carson, était rentré dans la salle après le départ des gentlemen et avait ramassé le malencontreux chiffon. Le même jour, les ouvriers étaient convoqués pour 7 heures du soir aux armes des tisseurs afin d'y apprendre le résultat de la démarche que leur député avait faite le matin. Un gentleman de Londres, ainsi qu'il était dit dans le billet de convocation, devait en outre prendre la parole sur la situation actuelle entre les ouvriers et les patrons, ou plutôt, suivant ses propres termes, entre les travailleurs et les oisifs. À l'heure dite, la salle était comble et chacun attendait avec impatience l'arrivée des délégués. Les députés entrèrent, le président fit connaître à l'Assemblée l'ultimatum des patrons, n'ajoutant pas un mot à ceux du message qu'ils rapportaient et dont chaque syllabe retentissait dans le cœur ulcéré des malheureux qui composaient l'auditoire. Le gentleman de Londres parut alors. On lui avait appris d'avance la décision des fabricants. Il eût été difficile de définir exactement la position qu'il occupait dans le monde et de deviner à quelle étude il avait dû se livrer.
Ce pouvait être un étudiant en médecine obligé de renoncer au grand art de guérir, un acteur sifflé, un commis sans emploi ou toute autre chose non moins équivoque. Il répondit par un sourire au salut qui lui était adressé et, promenant ses regards autour de la table, il demanda s'il serait agréable aux gentlemen qui composaient l'assemblée qu'on leur donnât des pipes et des liqueurs, se réservant de payer la dépense qui en résulterait. Ainsi qu'il arrive à l'homme d'un esprit cultivé, qui aime passionnément la lecture, de dévorer les livres qu'on lui donne lorsqu'il en a été sevré depuis longtemps. Ainsi les malheureux, dont le goût abandonné à lui-même ne pouvait apprécier que le tabac, la bière et d'autres jouissances du même ordre, acclamèrent avec empressement la proposition de l'orateur. Boire et fumer, cette ressource du pauvre qui amortit la faim et qui permet d'oublier les tortures du présent, les inquiétudes de l'avenir. Quand cet exorde d'un nouveau genre eut disposé les esprits en sa faveur, le gentleman de Londres se leva, étendit le bras droit, mit sa main gauche dans son gilet et prit la parole d'une voix théâtrale et forcée. Après un flot d'éloquence où les actions des deux Brutus se mêlèrent aux éloges qu'on donnait à la magnanime résistance des puissants tisseurs de Manchester, l'orateur aborda la question de fait et discuta les mesures à prendre avec une habileté qui justifiait pleinement la confiance de ceux qui l'avaient envoyé. Puis, joignant l'action à la parole, non seulement il dicta des conseils, mais encore il écrivit, séance tenante, une proclamation chaleureuse qui devait être affichée le lendemain sur tous les murs. Proposa d'envoyer des délégués pour demander l'appui des associations d'ouvriers qui existaient dans les autres villes, et s'inscrivit sur la liste de souscriptions qui devait leur être adressée pour une somme assez ronde au nom de la Société de Londres dont il faisait partie. Somme qu'il versa immédiatement, chose plus rare, en belle monnaie sonnante, en beau et bon souverain d'or. Une partie de cet argent fut aussitôt distribuée entre les délégués qu'on envoyait aux sociétés de Glasgow, de Newcastle, de Nottingham et autres lieux, et qui, pour la plupart, faisaient partie de la députation du matin. L'orateur écrivit quelques lettres qu'il leur donna, leur fit plusieurs recommandations importantes, prodigua les poignées de main autour de lui et se retira gravement, suivi bientôt de la plupart de ceux qui avaient composé cette réunion. Les nouveaux députés, ainsi que deux ou trois autres membres de l'association, restèrent dans la salle pour s'entretenir de la nouvelle mission qui leur était confiée, et causèrent ensuite des événements du jour et de l'orateur de la soirée. « En voilà un qui a la langue bien pendue » commença-t-on à dire, quand on eut fini de parler d'affaires. « Et qui en sait long ?» reprit un autre. « Avez-vous entendu son histoire de ce Brutus ? C'est dur tout de même de tuer son propre fils. Moi, je tuerais le mien comme un chien s'il se mettait avec les maîtres. Ce n'est que le fils de ma femme, mais c'est égal. Tiens, c'est John Slater, s'écria l'un d'eux. Est-ce bien lui avec ce gros nez ? Tous les yeux se tournèrent vers celui qui tenait la caricature d'Henry Carson, et toutes les têtes se rapprochèrent pour voir si le portrait de John était vraiment ressemblant. Mais me voilà, reprit un autre. C'est par Dieu bien la façon dont j'attache mon gilet avec une grosse épingle pour cacher que je n'ai pas de chemise. C'est une honte de se moquer du pauvre monde, et celui qui a fait ça me le paiera. Voyez-vous, dit John Slater, qui avait reconnu son gros nez, je peux bien rire comme un autre d'une plaisanterie, quand même c'est sur moi qu'elle retombe. Mais c'est quand je n'ai pas trop faim, et surtout, ses yeux s'emplirent de larmes, quand je ne pense pas à tout ce qui souffre à la maison, où j'ai peur de rentrer. Le cri des enfants me poursuit trop, je l'ai toujours dans l'oreille, et je me demande si je l'entendrai encore une fois que je serai noyé. Voilà pourquoi je ne peux pas rire. Et ça m'attriste de voir qu'il y en a qui se font un jeu de nos souffrances, et qui s'amusent à se moquer des pauvres gens aussi affligés que nous le sommes. Et moi, ça fait plus que m'attrister, dit Burton, dont la voix captiva aussitôt l'attention de tous les autres. Ça me brûle le cœur de voir des lâches se railler de malheureux, qui n'ont pas un brin de feu pour leur vieille mère qui tremble, pas de lit pour leur femme qui accouche sur le pavé d'une cave, et pas de pain à donner aux enfants dont la petite voix devient trop faible pour crier qu'ils ont faim. Car vous le savez, frère, c'est pour cela que nous réclamons ce qui nous est dû. Que leur demande-t-on après tout ? Pas de friandises, pas de gilets brodés, pas d'habits de clinquant, mais de quoi se couvrir et manger à sa faim. Ce n'est pas une grande maison toute dorée qu'il nous faut, mais un toit qui nous abrite de la pluie et de la neige, et pas seulement pour nous seuls, mais pour les pauvres petits qui s'attachent à nous quand ils ont froid et dont les yeux nous demandent pourquoi nous les avons fait naître, si ce n'était que pour souffrir. « Je connais un père, » ajouta-t-il en baissant la voix, « qui a tué son enfant pour qu'il ne meure pas de faim. C'est un homme bon et sensible. » Il reprit après un instant de silence. « Nous sommes allés trouver les maîtres. Nous leur avons dit ce que je viens de vous dire. Ils ont de l'argent, nous le savons. C'est nous qui le leur avons gagné. Le commerce reprend, ils ont reçu des commandes dont ils seront bien payés. Nous réclamons notre part, c'est notre droit. Tout ce que les maîtres gagnent sur nous sert à entretenir des valets et des chevaux, à faire plus d'étalages avec de beaux habits, et le reste. Si bien si ces folies leur plaisent, qu'ils le fassent. Nous les empêchons pas d'être fous, mais pourvu qu'ils soient justes. Cette part qui est à nous, et que nous leur réclamons, c'est notre pain de tous les jours, c'est notre vie, bien plus, car nous autres, nous serions tous joyeux d'en finir. Mais c'est la vie des enfants qui ont peur de la mort, ignorant ce que c'est que vivre. Nous avons dit au maître quels étaient nos besoins, et ce qu'il nous fallait pour le prix de notre travail. Ils ont refusé notre demande. C'était déjà bien dur, et ce n'est pas tout, les sans-cœur. Ils s'amusent à faire des portraits qui se moquent de nos haillons et de nos maigres figures. Ah! Je donnerais tout mon sang pour me venger du lâche qui peut rire de tant de misère. » Un murmure approbateur se fit entendre. Burton continua. « Vous avez dû vous étonner de ce que je n'étais pas ce matin à la députation. Mais je vais vous dire pourquoi. Le chapelain de Newbelley m'avait fait demander pour aller voir Jonas Higginbotham, qui avait été mis en prison la semaine dernière pour avoir jeté du vitriol à la figure d'un knobstick. Je ne pouvais pas refuser. Et je ne pensais pas que ça me conduirait si tard. Jonas était comme un désespéré lorsque j'entrais dans sa cabine. Il n'avait pas eu de repos depuis qu'il avait défiguré ce pauvre diable. Il le voyait toujours, se rendant à la ville, faible, exténué, traînant ses pieds meurtris, et cette vue le rendait fou. Là-bas, pensait-il, dans son pays, on attend de ses nouvelles, et c'est sa mort qu'on apprendra. Il en perdait la tête. Alors, il pria le chapelain de me faire venir. J'y vais, comme de raison, il me dit de prendre sa montre, qu'il avait eue de sa mère, de la vendre à bon prix, et d'emporter l'argent au knobstick. À cette fin que le pauvre homme pût l'envoyer chez lui, et surtout que je tâche d'obtenir son pardon. Je fis donc ce qu'il voulait. Je pris la montre, je la vendis, et je courus à l'hôpital. Bonté divine, ce n'est pas moi qui jetterai jamais du vitriol à personne après ce que j'ai vu là. Figurez-vous un pauvre homme, la tête couverte de linge et tremblant de tous ses membres, à force de souffrir. Ses poings fermés, qu'il aurait mordu pour étouffer ses cris, s'il avait pu ouvrir la bouche, s'agitaient comme ceux d'un possédé. Je lui parlai pour Jonas. Il ne sut pas ce que je voulais dire, mais il me serra la main à l'écraser lorsque je fis tinter l'argent à son oreille, et quand je lui demandai le nom de sa femme, il se mit à pleurer. « Marie, comme il disait, je ne pourrais plus te revoir. Ils m'ont rendu aveugle parce que je voulais travailler pour toi, pour notre enfant. Mon Dieu, mon Dieu !» L'infirmière est arrivée. Elle m'a dit que je lui faisais du mal. J'en avais peur. Et pourtant, je ne pouvais pas le quitter sans savoir où envoyer l'argent. « As-tu fini par connaître où demeure sa pauvre femme ?» demandèrent plusieurs voix avec anxiété. « Non. » Il parlait toujours et ne me répondait pas. La garde-malade n'en savait pas davantage, mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai trop vu ce que c'est que d'attaquer les knobsticks, et je jure bien qu'à présent, ce n'est pas moi qui les toucherai du doigt. » Quelques mots, un peu vifs, accueillirent cette dernière phrase. « On me connaît pourtant, » reprit-il, « on sait si ma parole est sûre. Quelqu'un a dit que j'étais lâche. C'est bon, chacun a le droit d'avoir son opinion. Quant à moi, ce que j'appelle une lâcheté, c'est d'attaquer de pauvres diables sans défense et de les forcer de choisir entre la faim ou le vitriol. Ce que je voudrais, moi, c'est de tomber sur les maîtres. C'est eux qui font tout le mal, c'est eux qu'il faut punir. Qu'on me mette en face d'un patron. Et celui qui m'accuse verra bien si j'en ai peur. » Ça pourrait être une idée que de les effrayer tous, en donnant à l'un d'eux une raclée qu'il laisserait presque mort. « Pourquoi pas le tuer tout à fait ?» dit un autre. « Ça leur ôterait peut-être l'envie de rire. »
Et continuant ainsi, les malheureux discutèrent les moyens d'accomplir leur vengeance. Peu à peu, les paroles devinrent plus sourdes et ne s'échappèrent qu'en râlant des poitrines oppressées. Les regards exprimèrent l'horreur que le crime inspire à ceux qui le méditent. Les poings se crispèrent et ce fut les dents serrées et les lèvres tremblantes qu'ils prononcèrent le terrible serment que l'Association des métiers impose à ses membres dans les plus graves circonstances. Malgré cela, craignant encore d'être trahis l'un par l'autre, ils déchirèrent la caricature d'Henry Carson, en firent autant de morceaux qu'il y avait d'individus présents, les plièrent d'une manière uniforme, les agitèrent dans un chapeau, éteignirent le gaz, et chacun, dans l'ombre, tira le papier que le hasard lui fit prendre. L'un de ces carrés, tous semblables du reste, portait un signe. Celui auquel le sort l'avait donné était tenu d'exécuter, sans faiblir, le meurtre qu'il avait juré. Mais nul, excepté Dieu et sa conscience, ne connaissait celui qui devait être le meurtrier.